Chapitre 4. Il était dit que ce jour-là, Otto Mühlbach ne pourrait pas continuer son travail. Madame de Ronchais était à peine sortie depuis 10 minutes que le garçon du bureau, type et accent germanique, annonçait « Monsieur le baron de Reichensfeld ». Appelé à Berlin pour affaire concernant le rôle secret qu'il jouait en France sous le couvert de l'étranger qui s'amuse, Monsieur de Reichensfeld n'avait pu encore poursuivre le plan dont il avait naguère parlé à Mühlbach. Mais il ne l'oubliait pas, comme le prouvèrent ses premières paroles. « Voyons, mon cher, avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit lors de notre dernière entrevue? Quand me ferez-vous connaître cette jeune personne ?»« Aujourd'hui même, si vous le voulez, monsieur le baron. Florita, un peu fatiguée, reste au logis près de sa tante. Je vais vous emmener chez moi, sous prétexte de vous présenter à ma femme, et la jeune fille nous servira le thé. »« Très bien. » Mais peut-être ma nationalité ne devra-t-elle pas lui être aussitôt révélée, ni ma qualité d'officier. J'y ai pensé. Je vous présenterai comme autrichien. Soit. Madame Mühlbach est prévenue? Oui, mais elle croit qu'il s'agit simplement de vous ménager des relations éventuelles avec le lieutenant de Pinvalas. Car je dois vous avertir, monsieur le baron, que ma femme est très favorable au mariage de Florita avec son cousin. En outre, elle aime beaucoup sa nièce. Et n'entendrait pas qu'on lui fît courir un péril quelconque. Donc il faut manœuvrer avec précaution de ce côté-là. C'est en effet bon à savoir. Et le lieutenant, est-il venu voir sa cousine? Je crois bien. Le voilà en garnison à Versailles, ce qui veut dire que nous le verrons souvent à Paris. Ennuyeux, ça. Il aurait fallu, au contraire, qu'elle ne le revît pas d'ici longtemps. Nous étudierons cela. Pour le moment, il s'agit de faire la connaissance de Florita, puis de lui plaire. Et comme par un jeu de physionomie, M. de Reichensfeld témoignait que ce dernier point ne l'embarrassait pas. Otto ajouta, non sans une légère ironie. « Ce ne sera peut-être pas si facile. On ne sait jamais quelles idées logent dans ces petites têtes de jeunes filles. »« Bah, bah, je m'en charge. Allons, Mühlbach. Partons-nous ?»« Quand vous le voudrez, monsieur le baron. » Et se levant, Otto ajouta, « J'ai vu tout à l'heure Madame de Ronchais. Elle m'a chargé de vous informer qu'elle avait à vous parler. Bien, je lui ferai demander par Milsen quand je puis l'aller voir. À propos de Milsen, il m'a rapporté hier une conversation très intéressante qu'il a surprise entre deux hommes politiques. Je vous raconterai cela. » Ils quittèrent la banque, hélèrent un taxi et y montèrent. En 10 minutes, ils arrivaient à la demeure des Mühlbach. Florita travaillait à une broderie près de sa tante, quand Otto entra dans le salon accompagné de l'étranger. Il présenta « Monsieur le baron de Reichensfeld, un de mes bons clients, qui veut bien accepter de prendre le thé avec nous. » Pépita, naturellement, avait entendu plus d'une fois parler de ce noble personnage, un des meilleurs agents que possédait en France l'espionnage prussien, et qui, de plus, se trouvait en fréquent rapport avec les frères Mühlbach. Mais elle ne le connaissait que de vue, son mari le lui ayant montré un jour aux courses de Chantilly. Son grand air, sa belle prestance lui en imposèrent aussitôt, non moins que ce qu'elle savait de sa situation sociale. D'ailleurs, M. de Reichensfeld daignait aujourd'hui atténuer sa morgue et se montrer aimable, causeur agréable. Ses yeux ne quittaient guère la jeune fille, qui, ayant répondu à son salut avec une politesse réservée, demeurait froide et presque silencieuse, car le regard de l'étranger, admirateur et hardi, lui avait profondément déplu. Maintenant, elle remarquait son air dur, en dépit du sourire qui l'amenait fréquemment sur ses lèvres, et l'orgueilleuse assurance de son maintien. Il parlait admirablement le français, mais avec un fort accent, qui n'avait rien d'étonnant puisqu'il était autrichien, comme il venait d'avoir l'occasion de le dire au cours de la conversation. « Mais français de cœur, ajouta-t-il, voilà plusieurs années que j'habite Paris, et la France est pour moi une seconde patrie. » S'il espérait s'attirer par cette déclaration la sympathie de Florita, il se trompait, car la jeune fille trouvait que décidément il lui déplaisait fort, ce baron autrichien. Aussi, quand elle eut servi le thé, elle dit à Madame Mühlbach, « Ma tante, si vous le permettez, je vais aller jusqu'à l'église. »« Mais tu es fatiguée, mon enfant. »« C'est si près. Soit, fais comme tu voudras. » Et adressant un froid petit salut à Monsieur de Reichensfeld, qui se levait et s'inclinait, la jeune fille disparut. Le baron ne dit mot de son impression sur elle pendant les 10 minutes qu'il demeura encore dans le salon de Pépita. mais il est probable qu'il se montrât moins réservé à l'égard de Mulbar, car celui-ci, en venant de le reconduire jusqu'à l'escalier, se frottait doucement les mains en songeant avec un sourire de satisfaction. « Il est déjà emballé, ce cher baron. Le coup de foudre, il ne croyait pas que la petite fût aussi merveilleusement jolie. » Pépita, quand son mari revint près d'elle, lui déclara « Il est vraiment très bien, monsieur de Reichensfeld. Oui, c'est un très bel homme, de plus fort intelligent, et je suis persuadée que s'il trouve une femme sérieuse dont il soit très épris, il pourra bien faire un excellent mari. » Ainsi déjà, Otto Mulbar préparait les voies pour le projet qu'il méditait. Car il persistait dans cette décision qui flattait sa vanité, de parvenu allemand, à la fois très respectueux et très jaloux du prestige de la noblesse militaire, faire épouser à sa nièce par alliance ce grand seigneur prussien, princièrement apparenté, pourvu d'une belle fortune, pouvant prétendre à de hautes charges et très bien vu à la cour. Que par ailleurs Friedrich de Reichensfeld fut un assez triste sire au point de vue moral, qu'il eut un caractère dur, despotique, et se montra dépourvu de tout scrupule, Mulbar ne s'en inquiétait guère. Car, quoiqu'il affectât de témoigner à Florita une grande affection, celle-ci, en réalité, n'existait pas, l'Allemand haineux voyant surtout en cet enfant la fille de l'officier français, et la détestant pour ce patriotisme, cette foi dans les destinées de son pays, qu'elle ne manquait pas une occasion d'affirmer. Ainsi donc il lui importait peu de la livrer à un homme comme le baron de Reichensfeld, du moment où lui-même devait y trouver la satisfaction de son orgueil. Florita, la pauvre, ne songeait guère que sa personne fût l'objet de telles combinaisons. Depuis qu'elle avait revu Alain, elle vivait plus constamment encore avec sa pensée. Mais maintenant, elle se doutait bien du nom qu'il fallait donner à leur affection réciproque, et c'était à la fois troublant et délicieux, cette idée que l'amour les avait tous deux visités, que c'était lui qui jetait tant d'émoi dans son cœur à elle, l'autre jour, et qui animait de si chaude tendresse les belles prunelles ardentes d'Alain quand il la regardait. Elle attendait avec impatience de le revoir. Il s'installait en ce moment à Versailles, où son mobilier avait été expédié pendant son séjour en Bretagne par les soins de ses domestiques. 8 jours après sa première visite à Florita, il revint à Paris. Armelle s'y trouvait encore, chez la vieille tante qui s'éteignait sans hâte. Un petit mot, la veille, avait prévenu la jeune fille que Madame de Marcy viendrait la chercher vers 9 heures, afin d'aller toutes deux attendre leur cher dragon à l'arrivée du train dont il indiquait l'heure à sa sœur. Il les trouva donc à la gare des Invalides, et tout aussitôt Florita, rougissante, le cœur battant, revit ce regard d'amour dont le souvenir ne la quittait plus depuis 8 jours. Tandis qu'ils montaient l'escalier tous trois, Alain prit la main de sa cousine, et, la serrant fortement, se pencha un peu en murmurant d'une voix frémissante « Que tu es charmante, ma petite fleur !» Du fait, elle était particulièrement délicieuse ce matin, dans un tailleur simple et coquet, avec un exquis petit chapeau de velours noir, près duquel ressortait admirablement la chaude teinte dorée de ses cheveux gracieusement coiffés. Aux paroles d'Alain, elle rougit davantage et baissa un peu ses longs cils soyeux. Quand elle les releva, son regard rencontra celui du baron de Reichensfeld, qui, descendant vers les quais, croisait le groupe formé par les cousins. Ils saluaient en même temps. Elle répondit à peine, désagréablement impressionnée par la lueur étrange jaillie de ses prunelles claires, voulant aussi témoigner à cet étranger qui lui déplaisait fort de le rencontrer sans cesse, comme il advenait depuis quelques jours, et d'être regardé comme il se permettait de le faire. Alain demanda « Quel est ce jeune homme? Il n'a pas une physionomie sympathique. »« Je suis de ton avis, c'est un client de mon oncle, un Autrichien, le baron de Reichensfeld. »« Reichensfeld, ce nom-là sent l'allemand, plutôt. Bel homme, certainement, un peu raide et suffisant. » Un type d'officier prussien. Tiens, cela m'a produit cet effet, quoique je n'en ai jamais vu, mais je les imagine ainsi. Mon oncle fait de ce monsieur de Reichensfeld les plus grands éloges. À l'en croire, c'est une véritable perfection. Alain eut un sourire sceptique. Qu'est-ce qu'il fait à Paris, cet Autrichien? Mais rien, je pense. Alors il y a des chances pour qu'il y fasse des sottises. Mais cela ne nous regarde pas. Laissons donc Monsieur Mulbar croire à la perfection de son client, et marchons vite, car il fait plutôt froid ce matin, mes chéris. » Si, en quittant la gare, les trois jeunes gens s'étaient retournés, ils auraient pu voir Monsieur de Reichensfeld remonter l'escalier, puis, en haut des degrés, se trouver nez à nez avec Madame de Ronchais, souriante et railleuse. « Bonjour, baron. Ah, madame, vous ? Oui, moi, qui avais quelqu'un à voir, de loin, comme vous, cher baron. » Il sourit à son tour, sachant qu'il était inutile de vouloir jouer au plus fin avec elle, n'ayant d'ailleurs aucun motif de ne pas se laisser deviner. « Oui, je souhaitais connaître un certain officier de dragon. Mulbar m'a prévenu par un petit mot que j'ai reçu hier soir. Et à moi il m'a écrit ceci. « Trouvez-vous demain gare des Invalides à l'arrivée du train de 9h45. Vous y verrez quelque chose qui vous intéressera. » J'ai bien compris aussitôt qu'il s'agissait de Monsieur Pavalas et de Florita. Mon cousin Mulbar a deviné que j'aurais plaisir à les voir ensemble, pour la haïr davantage, elle. Friedrich de Reichensfeld eut un léger ricanement à la vue de la lueur mauvaise qui traversait le regard d'Elsa. Eh, comtesse, voilà bien en effet une terrible rivale. Elle est belle à nous rendre tous fous. Je comprends Monsieur de Pavalas, et ce sera dur de la lui enlever. » Il marchait tout en parlant et sortait de la gare. Au dernier mot du baron, prononcé à voix plus basse, Elsa leva sur lui des yeux animés soudain d'un vif intérêt en murmurant « Vous songez? Elle vous plaît ?» Le baron eut un rire sourd. « Si elle me plaît, c'est la plus ravissante créature que j'ai jamais vue, et je ne la laisserai pas à ce Français, je vous l'affirme. » Nous marchons donc vers le même but, car moi non plus je ne veux pas qu'elle devienne la femme du lieutenant de Pavalas. Reichensfeld eut de nouveau son petit ricanement. Oui, ce bel officier n'a pas apprécié à sa valeur, paraît-il, Elsa Hoffel. Eh, vous n'aviez pas mauvais goût, comtesse, il n'est pas mal du tout. Très grand seigneur, cela se voit aussitôt. Elle l'interrompit d'un ton irrité. Laissez donc là votre ironie. Si j'ai eu, comme vous le dites, une rivale invincible en cette Florita, vous, monsieur de Reichensfeld, viendrez difficilement à bout de supplanter Alain de Pinvalas, car il est de ceux qu'on n'oublie pas une fois qu'on les a connus et aimés. N'espérons pas atteindre à nos fins par la persuasion. Alors, quelle est votre idée? Venez me voir, nous causerons. À propos, je crois que je trouverai à caser ce jeune homme, votre protégé, dans un ministère, comme vous le désiriez. Ah, si vous pouviez y réussir, ce garçon est adroit, rusé. Dans un emploi subalterne, il nous rendra beaucoup de services. Oui, c'est ainsi, en glissant partout de nos créatures, que nous préparons l'invasion. Avec l'aide de Madame Valentin, je m'occupe de placer de soi-disant Suissesses ou luxembourgeoises dans certaines administrations, dans des fabriques ou d'importantes maisons de commerce. En outre, je fournirai mes relations d'institutrice, de gouvernante, voire de domestique, homme ou femme. Les sujets ne me manquent pas. On prise fort chez nous cette manière de servir l'Allemagne. » Et, avec une moue de mépris, la jeune femme ajouta « Les Français ne nous viennent pas à la cheville, sous le rapport de l'espionnage, comme en bien d'autres choses, du reste. Oui, pour eux, il y a toujours là quelque chose de déshonorant, du moins dans la façon dont nous le pratiquons. Et tant mieux, nous en gardons ainsi le précieux monopole, qui nous sera éminemment utile, comme vous le dites, comtesse, le jour tant désiré où nos armées entreront victorieusement dans la France affolée, désorganisée, vaincue à l'avance. »